Voilà, j'aimerais ce soir définir quelques termes qui me paraissent assez importants en réalité par rapport à l'exploration que nous faisons ici. Cet engagement est absolument incroyable de pouvoir être ici en plein été en train d'écouter le Dharma. Je suis toujours assez émerveillée de l'intérêt que ceci peut susciter. Je pense que c'est aussi judicieux par moment que de donner un petit peu plus d'approfondissement quant au sens. Et je vais déjà tout d'abord définir ce terme de sati. Sati, c'est un terme que j'ai de plus en plus de peine à traduire. Ce terme de sati qui, dans nos contrées, est traduit comme pleine conscience, présence attentive, présence tout court. Je pense qu'il est judicieux de quelque part revenir aux sources. Et c'est ce que je vais tenter de faire. C'est donc naturellement une qualité mentale, hein, qu'on a tous à disposition. D'accord? C'est quelque part un état, un facteur mental, qui vient du terme smriti en sanskrit, et ce terme signifie se souvenir. Littéralement se souvenir. Dans ce contexte, il ne s'agit pas tant de se souvenir du passé que de se souvenir, se rappeler d'être présent. D'accord? D'être vraiment présent. Se rappeler de cultiver une qualité d'instant en instant qui est absolument essentielle, non seulement de quelque part l'explorer et puis la découvrir, mais de la stabiliser. Donc il y a ce terme-là qui veut dire garder à l'esprit. Garder cette attention à l'esprit. D'où le mot stabiliser. Nous, hein, on utilise de plus en plus cette notion, et il ne s'agit pas tant de stabiliser une expérience particulière, stabiliser l'attention elle-même, stabiliser sati. Donc je vais peut-être utiliser ce terme de sati sans le traduire. Après, on a ce terme de patana. Satipatthana, c'est le sutra qu'on utilise et qui naturellement est tout à fait important dans notre perspective de Dharma, c'est le manuel, si vous voulez, le guide. Hein, voilà. Il y en a très peu, en fait, de conseils pratiques, mais là, il y a vraiment toute une panoplie d'expressions qui vont nous aider à comprendre. Le Satipatthana va nous expliquer où établir cette attention, où établir Sati. Donc, Patthana signifie qui reste à proximité, qui est proche, qui est en intimité de toute expérience. Donc cette qualité d'attention qui vraiment reste très très proche de quelque expérience qui puisse être. Ça peut être sensation corporelle, son, ça peut être naturellement les pensées, naturellement le goût, ça naturellement la dimension de l'odorat, la vue, les cinq sens. Et puis le sixième, qui est tout ce qui s'apparente à ce qu'on a dans le mental. Cette expression du mental est tellement riche parce qu'elle a une dimension de qualité dont on peut prendre conscience. Les pensées, les images mentales, les émotions, tout ceci peut naturellement être reconnu au moyen de sati. Donc, établissement de l'attention au contact de ces expériences que je suis en train de décrire. Il est évident que beaucoup de ces expériences que je décris là ont trait au sensible, le sensible, les sens, dans le sens des sens, de revenir à quelque part une proximité avec nos sens. Donc, ça implique une attitude. Et cette attitude, elle est intitulée bhavana. Bhavana, ce terme de bhavana, signifie quelque part cultiver. Et c'est le terme qu'on utilise en français, Ce terme est traduit par méditation. Le terme méditation en pali, c'est bhavana. Donc bhavana, qui signifie littéralement cultiver, et aussi faire croître, faire fructifier. Donc cultiver au sens de développement. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout passif. Et donc on peut dire qu'on fait du sati bhavana, du metta bhavana, du samatha bhavana, dans le sens de la tranquillité, hein. Metta dans le sens de cultiver la qualité de metta, karuna bhavana. Ouais, comprenez ceci, hein. Donc c'est quelque part cette dimension de cultiver les qualités que je viens de nommer, la diverse et variée, mais on pourrait très bien amplifier ce terme. Donc ce terme de méditation qu'on utilise en français est complètement trompeur. En tout cas pour ma part, moi, tant que je n'ai pas vraiment eu cette explication que je suis en train de vous donner là, j'avais vraiment mal compris en fait le terme. Parce qu'il est trompeur, pourquoi ? D'ailleurs, c'est des Occidentaux qui ont choisi ce terme comme terme traduit pour bhavana. Parce que si on regarde le dictionnaire et qu'on est vraiment franchement intéressé aux définitions des mots, méditer, pour nous, c'est l'action de réfléchir. Action de réfléchir. Action de penser profondément à un sujet. Alors vous voyez là qu'il y a quand même quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on fait. Hein. C'est absolument extraordinaire. Donc il y a une phrase là que je vais dire, par exemple, cet ouvrage est le fruit de ses méditations, donc de ses réflexions, de quelque part ses considérations intellectuelles. Donc c'est tout à fait élaboré, le terme de réflexion, par rapport à ce qu'on fait. C'est évident que là, il y a déjà une amplitude. Donc pour expliquer ce contexte culturel, j'ai eu la chance de suivre des cours, vraiment des cours, pas des retraites, mais des cours, c'est-à-dire des stages d'études, avec Bhikkhu Bodhi, entre autres, et puis d'autres érudits du sanskrit, du pali. Et on passait notre temps à décortiquer ces termes. J'adore ça, moi. Donc, quelque part, c'est pour ça que je partage un peu cette connaissance, parce que j'aime aller aux sources. J'ai vraiment, quelque part, un plaisir absolu d'aller aux sources. Et c'est incroyable que, des fois, quand on a le contexte culturel, on comprend mieux une attitude, on comprend mieux une manière de percevoir la pratique. Donc lui, il expliquait que le contexte culturel du Bouddha historique, hein, qui a naturellement utilisé ce terme de bhavana, était en fait un terme choisi pour décrire une activité qui est complètement lié à l'agriculture, à nouveau. Vous voyez ? Cultiver sa terre. Cultiver sa terre, pratiquer bhavana. Lorsqu'il prépare le sol, il plante les graines, il arrose, il en prend soin, il continue d'en prendre soin. Et bien sûr qu'on doit mettre ceci dans un contexte ancien, hein, parce qu'il y a plus de 2600 ans maintenant. Donc il y a vraiment cette... quelque part, exemple qui souligne l'accent mis sur l'agriculture dans le nord de l'Inde. Et lorsque j'ai relu le texte que j'avais reçu de cet érudit, il a dit « J'imagine que lorsque Gautama, c'est comme ça qu'on l'appelait, le Bouddha, a choisi ce mot pour parler de la méditation, il avait à l'esprit les fermes et les champs omniprésents de son Inde natale. Contrairement à nos mots « méditation » ou « contemplation », le terme de bhavana est terreux, riche, verdoyant. Il sent la terre. La banalité du terme qu'il a choisi suggère le naturel, de l'ordre de la nature, l'ordinaire, le quotidien, le concret. Donc, pour moi, ça reflète vraiment quelque part une attitude très simple en réalité, extrêmement concrète. Et ce terme suggère aussi qu'il y a un potentiel. Le potentiel, et il expliquait justement que, parce que pour un terme, il y a 10 pages hein, d'explication. Et donc, il expliquait aussi, il suggérait ce potentiel qui fait que cette terre, peu importe si elle est en jachère ou elle est endommagée, qu'il y a un champ, eh bien, cette terre, elle peut toujours être nourrie, cultivée, sans cesse améliorée, enrichie, développée pour produire une récolte favorable. Donc vous voyez là que notre dimension de pratique peut toujours être enrichie, être naturellement égale au potentiel. Il y a aussi toute cette dimension de développement. Donc on peut dire qu'elle a une activité. J'ai vraiment vu ceci, on a enseigné avec Charles pendant plus de 20 ans en Israël, et c'est incroyable pour avoir visité plusieurs lieux qui étaient en fait des kibboutz, hein, là où on pratiquait la méditation. Il n'y avait pas vraiment de centre de méditation, ce n'est pas trop leur culture dans le sens de centre bouddhiste. Et donc, il y avait des kibboutz. Et nous, on occupait un kibboutz. Eh bien, au fil des ans, avec les années, le soin qui est pris, c'est incroyable. C'était de la terre sèche, c'était du désert, c'était inimaginable. Quelques années après, ben, c'est exactement ceci. Ce champ qui a été cultivé, qui a été sans cesse enrichi, développé, il y avait un beau jardin. Donc, il y a vraiment cette dimension de la vie. Et qui peut produire une récolte favorable, quelles que soient les conditions, si on y met son cœur. Donc là, il y a quelque part une démarche qu'il est important de nourrir. Ça signifie là que la vie, quelque part, est plus forte que la pensée. La vie, pour moi, est plus forte que la pensée. Et donc, cette vie qui se découvre au contact de Sati, en réalité, contient aussi d'autres aspects. Et une des fonctions de Sati, c'est reliée complètement, est nommée la perception. Donc, la perception a toute son importance dans notre processus de vie, d'enchaînement, de causes et conditions. Nous sommes, nous, un processus de vie. Et on le sent, hein? On est tout à fait au clair. Hein? On mange, et bien après on élimine ce qu'on a mangé, et puis on recommence, et puis on boit, et puis voilà, c'est exactement ceci qui se passe pour nous dans notre propre processus. Et donc, dans cette perspective-là, il y a un processus d'enchaînement de causes et conditions qui vont naturellement faire qu'il y a une vie qui se déroule. Une vie qui se déroule. À chaque instant, un contact. C'est ceci qu'exprime quelque part l'enchaînement de ces causes et conditions. Au contact de la vie, il y a des sensations. Si on est au contact des sens, il y a des sensations. Sensations physiques, naturellement, on peut ressentir ceci ici et maintenant. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher très loin. C'est chaque instant. Ce que je ressens, eh bien, naturellement, je peux aussi le percevoir. Et donc, je le perçois, je ressens, il y a peut-être un contact physique, et je perçois agréable, désagréable, je ressens, je perçois. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'y pense. Donc, la pensée, elle est déjà une élaboration par rapport à ce qu'on a ressenti et ce qu'on a perçu. C'est déjà une activité mentale plus élaborée. Sati, c'est une attention sans élaboration, avant qu'on commence à penser, avant qu'on commence à interpréter, avant qu'on définisse, avant qu'on décrive, avant qu'on donne sens. C'est ça. À chaque instant. Contact, perception, ressenti. Et ensuite, bien sûr, on a naturellement cette possibilité d'y ajouter des interprétations qu'on fait généralement, des interprétations, des conceptualisations. Voilà. Donc il y a tout un mode là qu'on peut percevoir. Et c'est un enchaînement, un processus auquel on s'intéresse dans notre activité ici même de Sati. C'est absolument génial de pouvoir se rendre compte que quelque part, la perception va nous aider d'une façon incroyable. On n'en parle pas souvent, on dit toujours quelque part voilà, l'attention, la présence, mais quelque part, cette perception, je perçois une fleur, là il y a un magnifique bosquet d'hibiscus, moi qui habitais des années en Afrique, c'est inimaginable, je passe devant, j'associe immédiatement ce bosquet d'hibiscus à mon magnifique jardin quand j'étais enfant en Afrique. C'est incroyable, perception, là c'est juste couleur, forme, voilà, un bosquet qui est ici, Marel, et immédiatement, oh, la perception qui fait que tout à coup il y a une activité mentale, je m'éloigne et oh, comme c'était beau. Et il n'y avait pas que des hibiscus, il y avait aussi des frangipaniers, et puis il y avait des... Enfin voilà, je ne vais pas faire toutes les... les plantes que je pouvais... Mais donc tout à coup, il y a un schéma là, hein, fréquent, qu'on connaît, qu'on repère, qui s'élabore, qui fait que là, on a quitté la perception du bosquet qui est là, hein, et associé une idée, associé quelque part un lieu qui n'est pas ici. Et il y a bien longtemps, on peut en quelques secondes partir, je peux vous dire, 60 ans en arrière, hein, pratiquement. Et donc, c'est extraordinaire, cette élaboration des pensées qui font qu'on est constamment en train de construire quelque chose. Ça se fait immédiatement, ça. On n'en a pas conscience. Ici, nous prenons vraiment soin de commencer à repérer ça. Une seconde, j'étais là, j'admirais ces fleurs, et je me suis dit, ouh là, voilà, oh, souvenir agréable, voilà. Ah, perception, souvenir agréable. Et naturellement, il y avait là un concept, et puis je suis revenue à ce que je ressens. Retour à ce qui se passe, Sati, ici et maintenant, mes pieds, etc. Donc vous voyez qu'il y a un cheminement. Cette perception, elle m'a aidée, quelque part, à repérer au moyen de Sati, c'est l'attention qui m'a permis de repérer, tiens, je m'éloigne là, je suis en train de m'envoler, blablabla. Et perception, attention vont aussi aider à revenir. Donc c'est exactement ce qui se passe. La perception va nous aider à quelque part récupérer, garder à l'esprit que c'est ici que ça se passe, c'est ici que je suis, je ressens, je reviens au contact de ce qui se passe, ici et maintenant. Donc la perception, il y a deux possibilités. Soit elle nous fait décoller, hein, quel que soit le, hein, un goût, une saveur, c'est extraordinaire. Aussi les odeurs. Oh, l'autre jour, il a plu ici, c'est extraordinaire. Vous avez rappelé, il a plu, il y avait tout à coup, en l'espace de quelques secondes, toute la terre. Oh, quelle énergie, on a partagé ça avec Sandrine. Oh, wow, c'est trop incroyable. Et puis là, de nouveau, ben voilà, on peut s'embarquer. Et la perception, avec cette attention, rester juste dans cette qualité de quelque part soin apporté à pouvoir sentir et apprécier ce sens. Simplement ce sens. Sans décoller, sans devoir partir dans des pensées élaborées et autres. Donc cette attention, avant l'élaboration, est quelque chose qu'on cultive. Et quelque chose qu'on nourrit, quelque chose qu'on va naturellement alimenter. Donc, par petits moments, ceci est tellement précieux parce que c'est exactement ça qui va nous permettre de garder un certain intérêt par rapport à ce qui se passe ici et maintenant. La plupart du temps, nous ne sommes pas là. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas là? Voilà. Donc, vous pouvez très, très bien, quelque part, avoir à cœur de dire, tiens, qu'est-ce qui est perçu, là? Voilà, élaboration. Et surtout, oh là là, la fin de la journée, bon, ces sensations corporelles, c'est vraiment inintéressant, quoi, la fin de la journée. Franchement, je risque bien de partir dans mes rêveries, hein. Voilà, et peut-être même pas à la fin de la journée, mais peut-être déjà au bout d'une heure, je dis, mais quel intérêt. Donc, C'est extraordinaire de pouvoir, quelque part, avoir cette façon de décoller où on rêve et on préfère rêver parce que c'est clair que ça nous fascine. Mais en même temps, c'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Donc, c'est extraordinaire de pouvoir voir ce travail de Satie qui nous ramène sur la voie de la perception qui ne s'égare pas. Donc, perception qui peut nous égarer, perception qui nous aide à demeurer au contact. Sanya, le terme, sanya. Se tenir proche, rester à proximité. Cette proximité de tout phénomène, quel qu'il soit, est nourrissant. Il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de la vie, et non pas uniquement des concepts. Et quand on commence à méditer, ben on se rend compte peut-être du potentiel, mais quand on médite après un certain temps, on goûte ça. Et c'est vraisemblable qu'on sente, ah ouais, je sais de quoi elle parle. Le vécu, il est vivant. Le vécu, ce qu'on éprouve, il est changeant. Il est sans cesse renouvelé. Donc il y a un certain émerveillement qui provient du fait de rester à proximité, au contact. Ça nous enrichit. Si vous êtes là et que vous avez déjà été en retraite, il faut croire que quelque part, vous avez certainement goûté à ça à un moment donné pour dire « mais il y avait quelque chose là !» Et je suis à nouveau dans une retraite de pratique de vipassana parce que c'est l'enrichissement qui provient de la vie. Ce qui se passe, c'est justement qu'il y a du neuf. C'est neuf. Vous voyez, ces façons de penser qui sont des récits, qui font qu'on se répète souvent les mêmes choses, eh bien, ce n'est jamais neuf. Il y a ces schémas répétitifs, même autant qu'ils soient agréables, autant qu'ils peuvent être désagréables par moment, eh bien, il y a une dimension là de routine. C'est ce qui s'intitule le samsara, tourner en rond, tourner en rond. Ces cycles, ces boucles où on a l'impression de oh, voilà, ça suffit de la vie. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et donc, si on a une question à se poser, c'est où vais-je trouver quelque part l'aliment qui va apporter quelque chose de nouveau, où ça va certainement me situer d'une manière différente. Pessoa, il a lutté avec et contre la pensée. J'ai déjà dit ceci. Et il disait que quand on lutte contre la pensée, eh bien, naturellement, cette dernière, elle libère la manière dont on est emprisonné. Donc, le fait de pouvoir, quelque part, aussi intégrer les pensées. La pensée donne la joie de comprendre. Il y a une joie à comprendre les choses. On adore comprendre. C'est bien pour ça qu'on pense. Voilà. Et surtout si on est porté à vraiment utiliser ce moyen-là pour comprendre. Comprendre, mais comprendre ici, ce sont des connaissances. On comprend certaines connaissances. La méditation ne va pas nous apporter de la connaissance comme on l'entend. Elle va nous apporter quelque part une dimension de discernement, de sagesse, qui n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. Donc, elle nous donne une certaine joie, la pensée, mais en même temps, et c'est ce que dit Pessoa, elle soustrait la fraîcheur à la vie. Elle enlève de la fraîcheur à la vie. Et il explique ceci par une très belle phrase qui dit « Ne pas savoir, c'est-à-dire ne pas avoir la connaissance de soi, c'est vivre. Se connaître mal soi-même, c'est penser. » Donc se connaître mal, c'est penser, dans le sens qu'on a toujours des pensées qui vont naturellement aller dans le sens de nous leurrer, de nous mettre dans une situation où on est peut-être dans un jugement, dans une interprétation, dans une confusion, elle ne va pas donner cette dimension d'expérience directe que la vie apporte. où on est vraiment en contact. Donc, quelque part, la vie, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Et par moments, on le sent ça, on le goûte, on le savoure. Donc, vivre la vie plus pleinement est quelque part le moyen et naturellement le but pour être dans un espace de rencontre qui fait que c'est extrêmement simple avant qu'on commence à élaborer. Donc vous pouvez retenir sati, attention sans élaboration. Voilà. Attention sans élaboration. Ou avant l'élaboration. Maintenant, sati, ça se cultive à trois niveaux. Il y a l'intention, ça c'est super important, c'est l'intention, c'est-à-dire de choisir de cultiver la présence plutôt que l'évasion. Lorsqu'on dit « Ah, mais voilà, j'ai passé toute la journée à m'évader, à être vraiment dans un... » Non, c'est pas, ça ne m'arrive pas, voilà, comme si tout à coup... voilà. Non, c'est une habitude qui a été cultivée. C'est une habitude de cultiver l'évasion. C'est une habitude, c'est quelque part un schéma qu'on répète et naturellement qu'on est tout à fait habile et c'est très important, quelque part, par moment, d'avoir cette dimension-là. Mais au contact de la pratique méditative, eh bien, cette dimension de cultiver l'évasion nous déconnecte. Nous déconnecte, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça favorise la prolifération mentale, ce qu'on appelle papancha. Papancha, c'est la prolifération mentale. Il y a une pensée, il y a une deuxième pensée, il y a un train de pensée. Puis, trois heures plus tard, je dis, oh là là, mais en fait, oula, j'ai passé où mon temps? J'étais où en fait? C'est incroyable des fois quand on se promène, on a un paysage absolument magnifique et haut, puis on est là dans ses problèmes et tout, hein. On n'a pas vu ce qui s'est passé, le chemin est où, wow. Et puis voilà, on n'était juste pas en train de vivre la vie qui était là. Donc l'intention, c'est quelque chose qu'on va naturellement nourrir. Donc cultiver sati, c'est choisir sati. C'est choisir la présence plutôt que l'évasion. Et à ce moment-là, il y a quelque part une dimension de ce que je décris par rapport à être nourri. Deuxième quelque part niveau, c'est cette attention qui est au contact de l'expérience présente, au contact de ce qui est là, ici et maintenant, quelle que soit l'expérience présente. Ça peut être une pensée, ça peut être, ben, comme le dit le Bouddha, le tout. Il dit tout ce que vous pouvez vivre en réalité, le tout. Cinq sens physiques et ce qu'il y a dans votre mental. C'est tout ce qu'il y a dans votre existence. Après, vous pouvez élaborer. Mais c'est extraordinaire, ce petit sutra qui dit le tout qu'un être humain peut vivre. Y compris la conscience, hein. C'est clair. Voilà, conscient d'être conscient. Donc, l'intention, l'attention au contact de ce qui est là. À chaque instant, il y a naturellement un renouvellement. Ça change. Ça change. Et puis... il y a naturellement aussi cette dimension de l'attitude. Donc, intention, attention, attitude. Attitude, c'est quelque part être curieux. L'attitude qui va nourrir ici, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans le contexte de ici et maintenant. Et je crois que ça, rien ne se passe si on n'a pas cet intérêt. Pour toute exploration, apprendre quelque chose, apprendre un instrument ou apprendre la plongée, voilà, comme j'ai pu le faire, eh bien, il y a une attitude, il y a être intéressé à ce qui se passe. Donc là, il y a cette curiosité. C'est vrai que c'est un petit peu plus complexe parce qu'on n'a pas un instrument de musique, hein, on n'a pas quelque part un objet, et donc c'est très difficile d'évaluer notre pratique ici. De dire, waouh, voilà. L'instrument, en fait, c'est nous, corps-esprit. Hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir... quelque part explorer, oui, mais l'attitude, c'est pas tellement quelque part juger ce qui se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comme on fait habituellement, mais c'est cette attitude de soutenir quelque part le soin apporté. Donc lié à sati, il y a le soin, c'est-à-dire qu'il y a metta, une attention soignée, dans le sens de care, une attention soignée, détendue et précise. Ce sont mes derniers mots pour décrire le processus. Détendu, on ne peut pas se crisper, sinon on est tout contracté. Donc détendu, mais aussi précise, pour rester intéressé à ce qui se passe. Perception. Donc intention, attention, attitude, ça crée quelque part un ensemble. Et ça va naturellement nourrir notre méditation. Sati est aussi accompagné de panya. Donc très souvent, on voit ces deux termes ensemble. Sati, attention sans élaboration, mais après il y a panya qui est traduit par sagesse. Donc c'est une attention sage aussi, qui a du discernement. Et le mot discernement, ça veut dire quelque chose de très précis en fait. C'est-à-dire discerner ce qui est là, être clair. C'est exactement l'inverse de confusion. C'est avoir cette attention ordinaire, mais qui en même temps va quelque part comporter du soin. Et à ce moment-là, il y a simplement le discernement. Tiens, ceci est un vedana agréable, c'est un vedana désagréable. Vedana voulant dire un ressenti. C'est quelque part une sensation qui est une sensation apparente à la pression. Ou c'est une petite, quelque part, qualité de joie qui me traverse. Et voilà, discerner la joie, discerner la tranquillité, discerner le calme. Il y a tous ces états mentaux qui peuvent naturellement provenir. Donc vous voyez qu'il y a plein d'éléments là. Hein? Discernement, soin, attention non élaborée, perception, tout ceci crée un ensemble. Tout ceci va composer quelque part notre pratique méditative et nous donner une capacité, si on veut, des compétences. Voilà, des compétences pour pouvoir quelque part être au contact de ce qui se passe. Et ça a son sens parce que le discernement, c'est aussi discerner. Tiens, qu'est-ce qui est souffrance et qu'est-ce qui ne l'est pas? Si on souhaite la libération de la souffrance, qui est vraiment, quelque part, si vous voulez, le projet du Bouddha, eh bien, c'est absolument essentiel qu'on lie, quelque part, sati à cette dimension-là. Donc, on a une attention en vue de la liberté. Cette intention, elle est placée aussi en vue d'une certaine compréhension, mais dans un certain but, ce n'est pas une attention ordinaire. C'est une attention qui vise la liberté. Et par moments, c'est tellement important de dire, mais voilà, en fait, qu'est-ce que je fais ici? Ben voilà, j'en ai assez d'être au contact de la respiration. Mais profondément, cette dimension de compréhension qui m'aide à voir qu'il y a un élément de sagesse qui est qu'on peut se rendre compte comment quand on résiste par exemple à quelque chose, eh bien on est contraint et on est perdu dans la résistance. Donc là il y a de la sagesse, mais cette sagesse elle est aussi au service de ce qui se passe ici et maintenant. Donc c'est aussi un ensemble. Et l'ensemble, il est aussi compris dans le sens du dharma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la méditation, il y a tout l'aspect de la vertu qu'on a sur le chemin, d'avoir quelque part quelque chose qui nous porte, qui nous aide et qui est vertueux, aller dans le sens du soin, dans le sens de la bienveillance, dans le sens de la compassion, dans le sens de ne pas se faire du mal volontairement, la non-hostilité, tout ceci fait partie de la démarche. Et puis bien sûr, donc on a ces trois aspects là, ces trois disciplines, on peut dire, ou entraînement, sagesse, vertu, méditation, ensemble. Et ça se passe ensemble, même si on est très simple à chaque instant, étant présent, il y a des degrés de développement où cette présence attentive, eh bien, on va la cultiver en ayant conscience du cheminement, d'où ça va. Si je suis là et puisque j'ai passé toute la matinée à m'automutiler, à me juger, à me critiquer, à me dire « mais t'es nul, tu sais pas faire, t'arriveras jamais », eh bien, il faut laisser tomber. C'est absolument pas aidant. Et de voir que si c'est un schéma répétitif qu'on a connu avant ou qu'on connaît si bien, eh bien, à ce moment-là, l'enseignement dit « discerne ». Vois ce qui se passe. Est-ce utile? Est-ce que ça te sert? Non! Laisse tomber! Donc, il y a une dimension de compréhension, là. Là, il y a une élaboration. C'est-à-dire que là, il y a quelque part le cheminement après de ce qu'on appelle vipassana par inférence, qui fait que ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu, ou jugement, ou pensée qui, naturellement, est une pensée de dévalorisation, par exemple. Eh bien, au moment où on l'aperçoit, on comprend que c'est qu'une pensée, c'est un aspect. Mais après, il y a le sens, ce que Charles a appelé le contexte. Le contexte, c'est-à-dire que ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Là, on récupère le sens. Et à ce moment-là, ce sens, bah, il va nous dire « waouh ! » Il y a quelque chose de tout à fait, quelque part, souffrant dans cette manière de se voir soi-même. Donc, il y a toutes sortes de degrés de développement de la présence attentive qu'on peut commencer vraiment à élaborer dans le sens d'ouvrir. Et il y a donc différentes fonctions. Fonction principale de sati. Et ces fonctions principales, eh bien, elles sont au nombre de 4. Il y en a bien plus, mais là, vu le temps qu'on a, je vais déjà en nommer 4. 4 qui nous intéressent dans ce contexte, mais qui peuvent aussi, bien sûr, être quelque part exportées dans votre vie courante. La première fonction de sati, c'est reconnaître. On l'a déjà dit, hein, prendre conscience de ce qui est présent à chaque instant où c'est présent, à la mesure du possible, voilà. Deuxième fonction, c'est justement cette dimension de protection. Sati a une fonction de protéger. Protéger dans le sens de vertu, bénéfique. Alors on peut porter cette protection de façon très claire. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un aliment que je ne peux pas manger. Je l'aime beaucoup. Il ne m'aime pas. Et donc, je ne le digère pas. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Donc, je ne vais pas le manger. Vous êtes d'accord? Enfin, j'espère que... Voilà. Mais comme je l'aime, des fois, je teste. Non, mais est-ce que c'est encore... Voilà. Donc, ce n'est pas judicieux. Donc, qu'est-ce que je fais là? La fonction de sati dit « Oh là là, attention !» Voilà, on va protéger le corps. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est une fonction de protection. Il y a mille et un exemples qu'on peut donner. Il y a la fonction de protection, de protéger son esprit. Et ça, c'est une attention absolument essentielle. Protéger son esprit, il y a beaucoup ici d'exemples. Une des manières, justement... de protéger son esprit, c'est la non-hostilité. La dimension de metta, de bienveillance, de bonté qu'on peut cultiver, qui fait qu'il y a cette dimension de pouvoir se souhaiter du bien plutôt que de se souhaiter du mal. Quand on est hostile, quand on est vraiment quelque part extrêmement malveillant, envers soi-même, il y a une activité là. Et c'est très intéressant parce qu'on se dit, voilà, c'est peut-être par habitude, mais en fait, non, c'est nourri. Et cette attention qui permet de percevoir vraiment clairement, mais je suis juste en train de nourrir quelque chose qui me fait du mal, eh bien, je ne vais pas garder ça. L'attention sati avec panya, la sagesse, protéger son esprit, c'est quelque part stop. Donc il y a là une attitude, intention, attention, attitude, un comportement qui va dans un autre sens que celui qu'on a peut-être, je ne sais pas, appliqué pendant quelque temps, voire longtemps. Ça prend bien sûr pas mal d'intérêt, de soin. Donc, fonction, reconnaître ce qui se passe à chaque instant. Fonction de protection. Troisième fonction, c'est l'investigation. Cette fonction d'investigation, elle est exactement ce que je nommais avant. Investiguer, ça veut dire discerner. Ça ne veut pas dire investiguer dans le sens de comprendre intellectuellement. C'est avoir la lucidité, du discernement. Comment et quand, par exemple. Comment ça se passe pour moi lorsque je suis sur le coussin, assise par terre, alors que c'est nouveau. Est-ce qu'il y a beaucoup de douleurs physiques qui peuvent provenir de cette position dont je n'ai pas l'habitude ? Voilà. Alors, je vais me poser la question, je discerne, est-ce que je bouge ? Est-ce que je ne bouge pas ? Quand est-ce que je bouge ? Tout ceci, ce sont des exemples extrêmement simples pour vous dire que ce n'est pas un discernement élaboré, hein. C'est demeurer au contact. Et il y a un discernement là, c'est « Ah oui, est-ce que je reste avec quelque part la respiration ? Est-ce que je vais explorer cette sensation dans l'épaule qui m'appelle hein ?» Il y a du discernement là, il y a de l'investigation. Est-ce que j'ouvre l'attention au corps en entier ? Est-ce que je vais changer peut-être pour avoir un peu plus de confort, passer à la chaise ? Tout ceci est judicieux. Et ça se fait naturellement. Mais de quel espace est-ce qu'on le fait ? Cette attention qui a cette fonction d'investigation est lucide dans le sens qu'elle va pouvoir aussi nous permettre quelque part de comprendre quelque chose. Dans le sens de comprendre, ah ben voilà, c'est judicieux. C'est judicieux de cette action-là, cette attitude. Donc protection et investigation, ou si vous voulez, il y a un autre terme aussi qui dit introspection, c'est-à-dire qu'on va naturellement avoir une certaine introspection, ça va de pair. Ça se fait ensemble, si vous voulez. Il y a une dimension prendre soin, c'est-à-dire vraiment avoir une attitude bienveillante. Et cette introspection, c'est clair, c'est lucide. C'est la sagesse et la compassion, ces deux éléments. C'est sage de prendre des décisions. Et c'est sage de quelque part avoir cette attitude qui m'éclaire par rapport aux besoins. Et ce besoin, c'est un besoin de protection, un besoin de nourrir les qualités qui vont nous aider. Donc à ce moment-là, l'attitude, elle est que quelque part l'attention devient plus stable parce qu'il y a suffisamment d'aise, naturellement, il y a suffisamment quelque part de compréhension, d'attitude, et on va pouvoir avoir plus de stabilité. Elle va être beaucoup plus aiguisée et plus précise, cette attention, beaucoup plus précise. Et donc une prise de conscience qui peut voir le jour à tout moment. Moi, je remarque qu'en retraite, par exemple, je dors beaucoup moins. Je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà. La plupart des personnes ont un sommeil différent de quand ils sont chez eux à la maison. Et puis, ça peut créer forcément des perturbations. En disant, oh là, mais je ne dors pas bien, ça ne va pas. Il y a aussi souvent, et des personnes qui m'ont effectivement partagé ça, des rêves intenses, voire des cauchemars. Il y a des fois forcément des choses qui font qu'on est beaucoup plus proche de notre subconscient. Donc, généralement, tout ce qui est refoulé a l'opportunité d'émerger. Et souvent la nuit. Donc il y a tout un travail qui se fait, et quelque part qui se réajuste, corporel, énergétique, enfin voilà, c'est donc pas anodin du tout. Et puis c'est très intéressant de voir que quelque part, il y eut un temps où je m'inquiétais de ce fait. Je disais, non, mais si je ne dors pas assez, si je n'ai pas mes heures, ça ne va pas le faire, je ne vais pas pouvoir être bien le lendemain. Puis en fait, c'est absolument pas vrai. c'est que quelque part, j'ai beaucoup moins besoin de sommeil parce qu'il y a l'énergie de la méditation. Il y a une énergie tout à fait spécifique qu'on appelle l'énergie du dharma, qui fait que on est relié. Il y a naturellement là une énergie tout à fait clairement définie dans ce contexte-ci. En plus, on ne la dépense pas beaucoup, cette énergie, hein, à s'affairer, à, voilà, à se dépenser. Donc, elle est effectivement contenue, on la rassemble et du coup, elle est à disposition. Donc, plutôt que d'essayer à tout prix de dormir plus longtemps, si c'est votre cas, bah, vous acceptez cet état. Et ça, c'est quelque part l'introspection et que c'est OK, c'est accepter les choses comme elles sont, de pouvoir vraiment les vivre de façon à s'adapter à la situation. La situation est différente. On n'est pas comme à la maison. Donc, reconnaître, protéger, investiguer et la quatrième fonction, c'est quelque part la déduction. C'est-à-dire qu'on déduit un comportement. Ça s'appelle vipassana par inférence et là, c'est vraiment l'usage et la réflexion. Ce que je viens de vous dire là, c'est exactement ça. On réfléchit à ce qui a pu être vécu, éprouvé, ressenti et que quelque part, on comprend quelque chose. Ah ouais, mon comportement, tiens, il a changé. Eh bien, je le vis de façon différente, cette situation, parce que je recadrais un peu ma compréhension. Il y a plus de discernement, il y a plus de soin. Et tout le sens là, c'est justement pour un changement de comportement. On ne veut pas rester les mêmes. On vient ici quand même pour un peu plus de liberté, un peu plus de contentement, un peu plus de satisfaction, de compréhension, de liberté intérieure. Donc, ah ouais, un sommeil, ok. Ben, en fait, j'entends ça. Ah ouais, ben c'est ok. Je suis allongée sur le lit, tranquille, je ne m'agite pas. Peut-être que je me rendors, peut-être que je ne me redors pas. Je médite souvent, allongée. Je pratique sati, tranquillement, de manière détendue. Et naturellement que là, à ce moment-là, la qualité de... quelque part de la sauce, si vous voulez, la qualité de l'attention, avec tout ce que je décris, toutes ces qualités-là, ben, elles se nourrissent. Donc, on ne demeure pas là dans la croyance, je devrais absolument dormir comme à la maison. Donc ça, c'est la déduction. C'est très important, cette quatrième phase, si vous voulez, que là, on comprend quelque chose. C'est à ce moment-là que peut-être on a envie d'écrire quelques notes sur un petit calepin pour dire « Ah oui, oui, oula, j'ai compris quelque chose et j'en déduis que... » Alors, je vais donner un exemple tout à fait anodin, hein, mais il y a des choses qu'on comprend qui sont beaucoup plus profondes. Comme une personne qui a partagé « Waouh, je réalise que j'ai le droit d'être sur cette terre, comme toute personne qui a le droit d'être sur cette terre. » J'ai eu ça, moi, il y a longtemps. Comme si j'avais cette, quelque part, notion erronée, une vue erronée de dire... On m'a tellement dit que j'étais inadéquate, pas bien, d'ailleurs non désirée, c'est clair, mais j'en ai déduit que je n'avais pas le droit d'être sur cette terre, d'exister comme tout autre. Tout à coup, il y a eu un discernement et tout ce processus-là que j'en ai... Waouh ! Comme tout le monde, en fait. Puis je me donne ce droit, même si on ne me l'a pas donné, à la naissance, c'est quand même extraordinaire. De pouvoir, quelque part, dès maintenant, ça fait un moment de ça, hein, mais m'accorder ce droit d'existence à soi-même. Vous voyez combien ce processus peut aussi être tellement enrichissant par déduction, vipassana par inférence, l'usage à ce moment-là pour recadrer une manière de voir une croyance. Très souvent, cette croyance-là était... cristallisé, on va dire. Vraiment bien solidifié. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné où voilà, on peut percevoir autrement. Donc on a tous, quelque part, cette extraordinaire possibilité, ce potentiel au contact de ce qui se passe, découvrir. Et ce sentiment progressivement fait qu'on on sent qu'on s'assouplit. Il y a vraiment cet aspect de l'assouplissement. Plutôt que toutes ces nœuds énergétiques qui sont crispés, qui sont complètement contractés, on a tout le corps qui peut faire mal. Eh bien, cette disposition, ben, tranquillement, va permettre une certaine ouverture et un assouplissement. Surtout pour moi, enfin, je trouve, de l'esprit. C'est-à-dire qu'il devient, et c'est exactement comme ceci que le décrit l'enseignement, mudu. C'est malléable. Il est malléable, il s'assouplit. Il peut quelque part recevoir. Il se détend. Il est moins agrippé pour absolument obtenir quelque chose. Donc le terme de mudu, il s'assouplit. Et naturellement, il y a une dimension d'accueil, de pouvoir s'accueillir. Et tout ceci se situe au présent. Et dans cet accueil de cet esprit plus détendu, moins figé, moins contracté, eh bien, ça affecte le corps. Donc, on a naturellement là toute une description, si vous voulez, de la belle pratique de Sati et qui donne, quelque part, la réalisation de Vipassana. C'est-à-dire que Vipassana, ce sont les prises de conscience, les éclairs de lucidité, ce qu'on appelle en anglais « insight ». Les insights. Insight, ça veut dire « ah ». Quelque part, une prise de conscience. Une prise de conscience qui est vraiment assez importante. Alors, on n'en a pas chaque minute, hein. Mais on alimente un processus qui fait que, tranquillement, on perçoit plus clairement ce qui se passe. Et si seulement il y avait, ou si seulement il n'y avait pas, ou ce qu'on aimerait, ce qu'on n'aimerait pas, les attachements, les aversions, tous ces modes-là, eh ben, on les repère aussi. On repère aussi ça. Mais la petite voix qui se répète inlassablement, « Oh, si seulement ça pouvait être différent. Oh, si seulement je pouvais avoir. Oh, si seulement. » Eh bien, ces modes d'attachement, agrippement et aversion, on les perçoit aussi simplement pour ce qu'ils sont. Ça commence à être intégré. On lutte plus contre ou moins contre. C'est une expérience comme une autre. Ah, agrippement. Ah, attachement. Ah, aversion. Parce que l'esprit est plus souple, donc il accueille, plutôt que de se rigidifier et lutter contre. Vous voyez, c'est une invitation vraiment qui va pouvoir être nourrie, quelle que soit notre réalité, du moment présent, quelle qu'elle soit. Le Bouddha, il a très, très clairement dit ça. Il a dit, aussi longtemps qu'il y a l'attachement au plaisant, et l'aversion au déplaisant, la libération est impossible. Donc, l'attachement au plaisant, on peut le percevoir, mais il n'a pas besoin, quelque part, de nous leurrer. C'est une expérience comme une autre. Ah, attachement. Ah, aversion. Ah oui, c'est ainsi. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, mon maître qui disait, ah ben oui, chaud, c'est chaud. Chaud, c'est chaud. Et il n'y a pas toute une histoire à coller pour essayer d'éviter à tout prix. Donc tranquillement, c'est ce qui se passe dans notre pratique. C'est extraordinaire cette exploration qui fait qu'on peut commencer à sentir qu'on n'est pas libre uniquement au contact de certaines conditions. On peut être libre dans toute situation. Toute situation. Rien ne nous contraint. Maintenant, les hauts et les bas sont normaux. Hein. Pour ceux qui sont arrivés hier, si vous avez eu un peu de bas aujourd'hui, plus de bas que de haut, c'est normal. Il y a une adaptation, il y a vraiment un besoin déjà d'être, moi je trouve, entré en mode retraite, hein, qui est quand même un mode tout à fait particulier, on est bien d'accord. Silence, et en plus dans une retraite qui avait déjà commencé il y a 8 jours, donc... Voilà, bravo de faire cette transition. En même temps, c'est vrai que il y a les deux en fait. Il y a le bénéfice, parce que vous entrez dans quelque chose qui est bien stable. Hein, et en même temps, il y a le besoin de s'adapter, parce que voilà, on se dit, ouh là là, il ne faut pas que je fasse de bruit, ils sont déjà là, ils sont tous complètement dans le nirvana. ce qui n'est pas le cas, je peux vous assurer. Mais donc, ouais, bon, bravo à ceux et celles qui sont arrivés. Puis voilà, tranquillement, tout ça, toute cette énergie se mélange. Et aussi, pour les personnes qui sont là depuis une semaine, eh bien, cette transition, elle a aussi certainement provoqué quelques remous, quelques impressions, quelques... C'est normal, c'est la vie. La vie, elle n'est pas différente ici, d'ailleurs. Mais tout est pratique. Comment est-ce que je peux voir ce qui se passe et apprendre. La présence n'est pas suffisante, c'est apprendre. J'avais un maître, c'est incroyable. Après chaque assise, après chaque journée, vous demandez « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris ?» Vous voyez ? C'est extraordinaire cette curiosité. « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ?» C'est Saïda Utejania, si jamais vous voulez savoir le maître qui... Vraiment, il avait une très grande foi dans la pratique. Et il disait « Mais c'est une présence qui vous réveille !» Donc il s'agit bien de comprendre le fonctionnement de son esprit. Voilà, le fonctionnement de son esprit. Le cœur de la pratique, c'est ça. Quelles sont les causes et conditions qui nous font souffrir? Quelles sont les causes et conditions qui peuvent nous aider à quelque part éclairer la souffrance inutile et pouvoir aller dans le sens de plus de liberté? Voilà, je vais terminer avec une petite poésie de André Chédid. J'aime beaucoup. Elle s'appelle Poésie. Par-delà les mots, elle sécrète la parole. En deçà du verbe, elle questionne l'univers. Au-delà des murailles, elle nomme la liberté. En deçà de chaque flot, elle révèle l'océan. Désertant les conquêtes, elle promet l'équiper. Elle remue le souffle, sacre l'humble outil, elle assemble les fragments du visage dispersé et désigne le mystère qui demeure entier. Il y a véritablement du mystère dans ce qu'on entreprend ici. Et c'est très important que ce mystère reste mystère.